présenter, je vais rester sur quelques éléments plus davantage en prise avec, avec son sujet, outre le fait d'être maître de conférence en SIC. Je vais plutôt là m'arrêter un instant sur ces objets d'études, à savoir les transformations actuelles.
Alors, je vais commencer. Moi, je ne vais pas faire comme Pascal Duplessis ce matin. Vous m'entendez bien. Voilà. Je vais vous donner le bonus avant. Donc, vous voyez, vous avez une... Après la tortue, c'est Elastigirl. Et donc, je vais vous donner juste une petite énigme pour la fin de la journée. Mes deux acolytes de ce matin ont eux aussi un avatar pour pouvoir travailler sur la cartographie. Donc, qui saura deviner quel est l'avatar d'Alexandre Serre et quel est l'avatar d'Angèle Stalder? Alors, avant de commencer directement, je vais vous montrer deux éléments. Une première vidéo, et puis un document pédagogique pour introduire mon propos sur cette question de la culture des jeunes et de leur prise en compte de l'apprentissage, mais en même temps, ce que ça révèle de la manière dont on se représente l'enseignement et l'apprentissage aujourd'hui. Donc une première vidéo qui est la pub Acadomia qui circule pas mal, je crois que vous l'avez vue à la télévision ou sur les réseaux. Elle est intéressante à plusieurs titres, donc je vous la laisse regarder en espérant qu'il y ait le son, mais s'il n'y a pas le son de toute façon, vous allez voir, elle est suffisamment éloquente. Il n'y a pas de son, c'est pas grave. Et si vous ne voyez pas, de toute façon, je vais vous redire quelques éléments. Vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, c'est très bien. Et en plus, vous ne bronchez pas, ça. C'est pas grave, je vais vous la raconter. Voilà, il dit « Bonjour, je m'appelle Georges, j'ai un pouvoir extraordinaire et ce pouvoir, c'est apprendre. » Voilà. Alors, cette publicité, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre un enfant qui a accès à un certain nombre de savoirs, des savoirs très anciens, des savoirs historiques, des savoirs plus récents, qui visiblement les assimile. Entre lui et le savoir, ça se passe directement. On peut voir qu'à la fin de la vidéo, ce qui semble être le summum de la réussite, il participe à un concert de rock et il est la vedette. Et donc son secret, c'est d'apprendre. Mais vous voyez bien, enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les absents dans cette vidéo. Vous avez quand même un livre. Voilà. Mais sinon, vous n'avez pas d'enseignant, vous n'avez pas de salle de classe, vous n'avez pas tous ces objets qui médiatisent et qui matérialisent ce que c'est que l'école aujourd'hui, ce qu'est l'école depuis longtemps. Et c'est vrai que c'est une représentation médiatique du bon apprentissage aujourd'hui, bien, enfin, apprendre de manière créative, réussie, épanouissante, etc. C'est quand même apprendre sans les enseignants, sans l'école, etc. Donc voilà, premier élément que je soumets à votre réflexion. Alors, deux petites manipulation, je cherche mon PDF. Deuxième élément pour réfléchir. Vous allez, c'est difficile à voir, mais c'est la même chose. Hein. C'est juste pour vous inciter à réfléchir là-dessus. C'est une fiche pédagogique, un petit peu dans la lignée de ce qui a été présenté par Pascal Duplessis ce matin. Fiche pédagogique proposée par une enseignante documentaliste sur l'identité numérique et qui propose aux élèves de paramétrer leur compte Facebook avec une définition de l'identité numérique comme trace volontaire laissée par soi-même, trace subie, etc. Et cette fiche pédagogique déroule dans une succession d'étapes les différents éléments de savoir de l'identité numérique et propose de travailler à partir de l'article de Marc L. Dans le Tigre, qui commence à être un petit peu ancien mais qui est toujours utilisé. L'étape 4 est comment garder la maîtrise de son identité numérique. On arrive à protéger son identité, vérifier son image et à la fin de l'heure, leur montrer l'onglet Internet responsable sur le portail EasyDoc du CDI pour qu'ils remplissent en ligne la fiche diagnostique de leur compte Facebook et accèdent au guide de paramétrage de leur compte Facebook. Voilà, donc deuxième manière de représenter l'apprentissage lié aux pratiques des jeunes actuellement, c'est effectivement ces fiches pédagogiques que l'on peut trouver pour travailler l'identité numérique. Je ne ferai pas de commentaires plus avant de ce document-là et je vais passer. À cette intervention que j'ai intitulée « Didactiser la culture des adolescents, approches sociaux, alors je rajoute spatiaux, critiques, exemple de Twitter et Facebook ». Là, personne n'a bronché sur mon titre, mais « Didactiser la culture des adolescents », c'est quand même un truc qui fait froid dans le dos et qui est totalement absurde, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est passé. Donc on va essayer de faire, voilà, on fait le pari qu'il y a peut-être quelque chose à creuser quand même. Alors, pourquoi ? Parce que c'est vrai que dans ce questionnement que l'on a, alors là on est beaucoup plus large que la formation documentation, mais on est dans l'idée qu'il faut prendre en compte la culture des jeunes, qu'ils ont une culture liée aux outils numériques, par exemple liée aux réseaux sociaux, donc sur lesquels il faut s'appuyer. En même temps, il y a une espèce d'urgence où on se dit on ne peut pas les laisser livrer eux-mêmes à l'utilisation de ces outils, il faut les former à ne pas publier n'importe quoi, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire didactiser la culture des adolescents ? La première chose, c'est est-ce qu'on est là pour enseigner aux adolescents à mieux utiliser leur compte Facebook, par exemple ? Est-ce qu'on est là pour prendre en compte leurs pratiques et faire en sorte que dans les séances d'enseignement, ils puissent utiliser ces outils-là, ils puissent s'appuyer sur leur compte, etc. Est-ce qu'on est là pour transposer ? Comment est-ce qu'on fait pour transposer l'usage de Facebook dans un cadre scolaire ? Et quand on parle de la culture des adolescents, ben de quoi on parle ? C'est quand même quelque chose d'énorme. Surtout, dès qu'on réfléchit un peu, on sait que cette culture-là est très, très hétérogène. Alors évidemment, c'est mon dada, donc je vais remettre une couche, c'est la question de l'écriture. Donc pour ceux qui m'ont déjà entendu là-dessus, je vais quand même être assez rapide, rassurez-vous. Moi j'essaye de réfléchir les usages numériques des adolescents à partir d'un objet qui est celui de l'écriture, parce qu'il me semble que c'est un outil qui est transversal et qui est très très présent sur les outils du numérique. Le numérique, c'est en particulier un ensemble d'outils d'écriture qui contribuent alors à produire des espaces relationnels, de communication, biographiques, etc. Alors j'en profite pour définir le mot espace, parce que je le prends dans un sens géographique. Bien souvent, on prend le sens du mot espace comme étant un environnement, c'est-à-dire, voilà, on est dans un espace scolaire à partir du moment où on est dans une salle de classe. En fait, en géographie, on appelle ça un environnement, c'est-à-dire quels sont les éléments matériels qui font que vous êtes à l'école. Un espace, c'est en fait ce que vous produisez en interagissant avec cet environnement. Donc quand vous êtes chez vous, dans votre bureau personnel, et que vous préparez des documents pédagogiques, vous produisez une forme d'espace didactique, ou une forme d'espace scolaire. Et donc l'espace, c'est quelque chose qui est beaucoup plus individuel, beaucoup plus social, et beaucoup plus dynamique que le sens que l'on lui donne communément. qui fait que quand on écrit sur des espaces, enfin sur des, avec des environnements numériques, eh ben on peut produire de l'espace relationnel si on est en train d'établir des contacts avec des gens. On peut établir des espaces biographiques si on est en train de tenir son journal, alors ou en ligne ou sur un fichier texte. Mais voilà, déjà un premier point, cette notion d'espace, parce que je vais la reprendre après. L'écriture, quand on l'utilise avec le numérique, elle a cette valeur et une valeur très différenciée. Elle peut servir de trace, c'est un outil pour la mémoire, c'est un outil pour la mémoire des autres aussi, une mémoire partagée, c'est une technologie de l'intellect, ça veut dire que ça nous aide à réfléchir, et c'est un outil pour entrer en contact avec le monde. Ce qu'on va avoir, c'est qu'effectivement, avec les réseaux sociaux, il y a des formes de contact avec le monde qui n'existaient pas avant. Et puis l'écriture, c'est bien l'outil de la forme scolaire. C'est-à-dire que, alors déjà je vais définir la forme scolaire, hein, parce que forme scolaire ne veut pas dire simplement pratique scolaire, c'est pas ce qu'on fait à l'école qui constitue la forme scolaire. L'idée de la forme scolaire, c'est qu'il y a des formes de socialisation et de production de savoir qui sont, en quelque sorte, générées par le fait d'être scolarisé. Par exemple, la grammaire est un produit pur de la forme scolaire. La grammaire n'existe pas en dehors d'une question scolaire. Ou alors, c'est parce qu'on a besoin d'enseigner des choses que l'on va fabriquer certains types de savoir. Et ça, c'est important à comprendre aussi. Avec cette question de l'écriture, c'est important de considérer que l'adolescent, c'est un individu qui est un sujet. C'est pas un réceptacle de savoir, ce n'est pas quelqu'un qui est un objet totalement passif, même si parfois il est asservi à un certain nombre de choses, c'est un individu qui est sujet, qui va interagir avec tout ce qu'il a comme type d'environnement à sa disposition, et il va s'appuyer sur l'écriture, ou bien en la consultant, ou bien en en produisant. Alors, les exemples que je vais prendre, hein, c'est ceux que j'ai, collecté dans le cadre de mon enquête ethnographique, dans le cadre de ma thèse, où j'ai observé les pratiques des adolescents dans ce que j'ai appelé des ensembles pratiques, c'est-à-dire en fait des situations caractéristiques d'une vie adolescente. Donc les adolescents prennent les transports scolaires pour aller au lycée ou au collège, ils sont à l'internat, ils sont dans des salles de classe, ils sont dans des salles de cours, etc. Et donc ils vont produire des espaces scolaires, des espaces privés, des espaces en mobilité, et tout cela, j'ai essayé de l'investiguer. Il y a des éléments aussi qui émanent d'un travail d'enquête que je poursuis avec les petits frères, les petites sœurs, et puis les jeunes que j'ai continué à suivre, et dont je vais essayer de vous parler un peu. Ce que j'ai pu observer, c'est une diversité d'objets, de dispositifs sociotechniques, maintenant on est tous à peu près d'accord sur ce que c'est, qui fonctionnent comme des lieux, c'est-à-dire des endroits où vraiment il se passe des choses très importantes pour les adolescents, mais à des échelles variées. Alors, pourquoi est-ce que je vous mets cette liste-là? C'est parce que parfois il y a des éléments qui sont importants pour les adolescents, mais qui sont assez invisible, auquel on ne pense pas. On ne pense pas forcément au rôle que ça joue. Par exemple, les couloirs. Je ne sais pas si vous prenez, en y réfléchissant un petit peu, le couloir est un espace très intéressant pour l'adolescent. C'est un lieu où il va séjourner, il attend les profs, c'est un lieu de conflits aussi sociaux, d'identité de groupe, etc. Il y a plein de choses qui se passent là. L'internat, la salle de cours, et chaque environnement va fonctionner, va permettre de construire un dispositif, c'est-à-dire où vont se mettre en place des règles sociales, des manières de faire avec les autres, etc. Donc, si je la relis à la question de l'écriture, les graffitis sur les portes des toilettes, c'est pas pour rien que c'est sur les portes des toilettes. Enfin, vous avez le téléphone mobile, les carnets, les feuilles de toutes sortes qui circulent beaucoup, le tableau, les affichages, les murs sur lesquels on va faire des tas de choses. Ça se perd un petit peu, je trouve qu'il y a moins de graffitis sur les tables, mais ça doit dépendre des endroits. Ça dépend des endroits, d'accord. Et puis, les réseaux sociaux numériques, bien évidemment, avec Facebook et Twitter. Alors, je vous ai donné un exemple là d'un jeune que j'ai suivi et qui pratiquait le dessin, un lycéen. Parce que là, sur cet espace en fait, qui est sa page Facebook, on a une espèce de mise en abîme d'environnement et de dispositifs techniques. C'est-à-dire que là, ce jeune a demandé à un copain de le prendre en photo alors qu'il est en train de dessiner à l'encre avec un stylo noir. Dans son bureau, avec certainement une très grande stratégie de ce qu'il a choisi de mettre en évidence, parce que vous avez aussi sa palette d'aquarelles qui est là. Et puis, cette photo, elle est partagée sur Facebook. À partir de là, il y a un certain nombre de commentaires, etc. Et vous voyez, il y a une mise en abyme d'activité sociale, c'est-à-dire une stratégie de la visibilité, hein, comme on pourrait le dire. Mais si on essaye de déplier un peu tout ça, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent. Donc, ce que j'ai appelé l'économie scripturale des adolescents, c'est que c'est pour dire que les adolescents, enfin, ils ont une vie qui est vraiment tramée d'écrits, mais comme la vôtre, hein, sauf que ce ne sera pas les mêmes enjeux, pas forcément les mêmes types d'écrits, avec des fonctions variées. Beaucoup d'écrits servent à s'organiser, qu'ils soient numériques ou papier, hein, je ne fais pas de distinction, servent à communiquer, servent à documenter, et à se documenter, d'ailleurs constituer de la documentation de matière performante ou non, et à fictionnaliser, c'est-à-dire transformer en fiction sa propre vie, hein, sa vie quotidienne, alors ou bien en la transformant en BD, ou bien en la sous-titrant avec des commentaires un petit peu en temps réel sur les réseaux. Et les espaces adolescents se reconfigurent au fil des écrits. Alors pourquoi est-ce que c'est important sur la vie adolescente? C'est parce qu'en fait, c'est dans ces processus-là qu'ils grandissent et qu'ils évoluent en fonction des écrits qu'ils vont produire, en fonction de ce qu'ils vont voir sur les comptes des autres, sur les écrits qui vont circuler, etc. Et ben, on apprend à faire avec les autres, on apprend à se situer par rapport aux autres, et c'est la grande question au collège et au lycée, c'est comment je fais pour être moi, mais en étant comme les autres. Et après, c'est comment je fais pour rester un peu avec les autres, mais je veux surtout être moi. Ça, c'est au lycée que ça s'inverse, hein, où ils ont envie d'être beaucoup plus identifiés comme des individus. Et donc, ces écrits organisent à la fois une continuité et une diversité. Alors moi, ce que j'appelle une mobilité, mais on ne va pas rentrer dans les détails, c'est l'idée que à la fois, autant les jeunes se déplacent de manière topographique, c'est-à-dire ils vont d'un lieu à l'autre, hein, ils vont de chez eux au lycée, à la salle de sport, dans des cafés, etc. Et puis, ils vont se déplacer symboliquement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sont dans un environnement différent, dans des dispositifs différents, avec des individus, des groupes sociaux différents, et bien ils adaptent leur manière d'être, leur manière d'interagir, etc. Et c'est toujours le même individu sujet qui interagit au fur et à mesure de ces espaces. Et donc, ils sont confrontés et ils produisent, enfin, c'est quelque chose qui est très complexe, hein, très riche, dans une pluralité de formes qui sont très contextualisées aussi. C'est-à-dire que pour avoir du sens, il faut que ces écrits ou ces formes sociales soient inscrites dans les dispositifs qui les ont produits. Alors, ce que je note là, c'est qu'effectivement, à force de traverser comme ça des environnements, évidemment, je n'ai pas encore dit le mot translittératie, mais ça ne saurait tarder. À force d'être dans cette traversée des environnements, on a, à cause de la facilité technique, hein, une invisibilité des espaces de médiation. C'est-à-dire qu'on a l'impression, voilà, je fais un dessin, je le partage sur Facebook, un autre va le partager sur Twitter, et puis ensuite ça va être copié-collé, réinséré dans autre chose. Tout ce continuum de pratiques contribue par sa vitesse de circulation à rendre invisibles les dispositifs aux jeunes. Et là, eux, ils ont très peu de prise, très peu de compréhension de ce qui se passe. Et puis, ils sont aux prises avec des paradoxes, qui sont ceux de la contribution sur Internet. Alors, je vous donne juste cet exemple-là. Hein. Là, vous avez une capture d'écran de Melty, qui se veut être le premier média de la culture jeune, avec... sollicitation permanente envers les jeunes pour qu'ils lisent les articles, pour qu'ils les commentent, pour qu'ils les partagent, etc. Alors il faut se dire que la plupart du temps les commentaires c'est vraiment naze, voilà. Bon, c'est pas grave, c'est naze de commenter ça, mais bon, je le commente quand même. Là, vous voyez par exemple cette espèce d'incitation à l'urgence. Déjà, 25 personnes ont réagi à l'article « Les Marseillais en Thaïlande ». Donc, dépêche-toi aussi d'y participer, enfin, de contribuer. Et en fait, ça, c'est... Alors, je tire le fil tout de suite pour la question éducative. C'est qu'on voudrait que les jeunes s'engagent, qu'ils publient en ligne, qu'ils... etc. Mais on est pris dans un espèce de paradoxe. C'est quoi cet engagement en ligne? C'est quoi cette participation, cette contribution que l'on demande? Et on a une incitation à la contribution qui fonctionne la plupart du temps quand même sur une logique économique. On a tout intérêt à ce qu'ils participent parce que ça crée le buzz, hein, pour le dire rapidement. Et là, c'est pas du tout sûr que les jeunes fassent le tri entre des engagements qui ont un bénéfice pour eux-mêmes en termes de socialisation, d'apprentissage, etc. Et puis des contributions qui en fait ne sont des bénéfices que pour la plateforme à laquelle ils contribuent. Alors si je fais un focus sur les réseaux sociaux numériques, très rapidement, hein, c'est au cas où vous n'étiez pas là ces 10 dernières années. Que sont les réseaux sociaux numériques? Ce sont des agencements matériels et symboliques qui permettent d'entrer en relation. C'est-à-dire, voilà, on a des outils, des dispositifs techniques, mais qui sont là pour établir des relations, hein, de manière plus automatisée que celle que l'on pouvait avoir avant. Et qui fonctionnent, avec la question du lien hypertexte, sur des principes d'indexation sociale. C'est-à-dire, je vais... invité comme ami, ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes mes amis, vous avez accès à mes contenus, etc. Et donc cette mise en relation d'individus, elle est à la fois liée à ce que je veux en faire en tant qu'individu, et puis elle est liée à la plateforme qui supporte le réseau. Et ils vont déposer un certain nombre de traces, hein, si je parle des jeunes, des traces qui vont servir de la mémoire, et, alors déjà des éléments d'activité sociale, hein, parce qu'ils communiquent directement en ligne, mais c'est qui vont constituer des traces, une espèce d'histoire de la relation, et qui ensuite pourra servir de ressource pour faire autre chose. Je passe pour l'instant. Ah ben voilà, translittératie, je ne sais pas si ça se voit. Pourquoi est-ce que vraiment très clairement on est dans de la translittératie? C'est parce que ces usages des réseaux sociaux, déjà, ne sont jamais limités aux réseaux sociaux eux-mêmes. Hein, comme je le disais tout à l'heure, ça s'inscrit dans une continuité d'environnement technique et avec un système d'outils, alors des outils qui sont cognitifs, c'est-à-dire qui demandent l'utilisation de la connaissance. Il faut mettre en place des arbitrages, ça met en jeu des questions de mémoire, etc. Et puis des outils sociaux de mise en relation. Alors, je vous ai donné un exemple là, c'est une fiche personnage pour un jeu de rôle, et puis le compte Facebook de l'adolescent concerné. Alors, si je fais maintenant un deuxième point de regard sur Facebook, à quoi dans mon enquête j'ai pu voir que Facebook servait aux adolescents? Et c'est très clair que, comme je le dis parfois, les adolescents ne sont pas stupides. S'ils consacrent une énergie importante et du temps pour être sur ce réseau-là, c'est bien parce que ça a du sens pour eux. Évidemment, je vous le dis après, s'ils se désengagent, c'est aussi parce qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent. D'abord, quand on est sur Facebook et qu'on observe les comptes des adolescents, il faut être bien clair, nous n'avons accès qu'à des traces. Et que finalement, toute la dynamique sociale... ce sont des processus qui ont donné lieu à ces traces-là. Et ce qui fait que parfois, voilà, les traces, on les trouve un petit peu pas très intéressantes. Mais pour eux, il y a une activité sociale derrière qui est importante. Alors je vous lis juste l'extrait, hein, qui est là, d'une ado. Aujourd'hui, devoir de géo sur 2 heures, thème, remplir une carte en faisant une légende structurée, faire apparaître une problématique. Pas trop inspirée, je commence à griffonner sur mon brouillon, posé au-dessus de mon fond de carte. Ma prof va être ravie de trouver Link incrusté sur ma carte, VDM. Voilà. Donc là, on a typiquement le genre d'élément qui serait très intéressant à analyser. Hein. C'est à la fois du sous-titrage de vie, c'est à la fois de la fictionnalisation. On remet son histoire. Alors, évidemment, certains pourraient dire, bon, c'est du journal intime, elle raconte sa vie. C'est un petit peu plus intéressant que ça. Et donc, ça leur sert à se socialiser, à s'individuer, comme je le disais tout à l'heure. On regarde comment fonctionnent les comptes des autres pour savoir comment est-ce qu'on peut gérer son propre compte. On va construire son expérience. On va s'informer, je vais y revenir. Et effectivement, ça va s'inscrire dans des temporalités d'engagement, de désengagement. Des moments où ils sont énormément sur Facebook et des moments où ils sont en situation de retrait pour des raisons différentes, parce qu'il y a une altercation avec quelqu'un et qu'il faut calmer le jeu. Parce qu'aussi, ils se rendent compte que oh ben maintenant que j'ai l'autorisation d'aller au jeudi, en ville le jeudi soir, ben, franchement, enfin, voilà, le temps avec les copains en vie réelle est plus intéressant. Et voilà. Il y a des quantités de raisons pour qu'ils se désengagent et puis qu'ils y reviennent. Hein. Alors là, c'est un résultat de l'enquête faite par Facebook sur les comptes des jeunes, où ils se sont aperçus du désengagement, mais qu'ils les récupéraient quand ils entrent dans la vie active. Alors, à des échelles diverses, ça c'est un point important, Facebook est un réseau extrêmement important. Quand vous constituez votre réseau d'amis, déjà vous réduisez, vous êtes à une échelle d'interaction plus faible, mais dans la réalité, les adolescents sont même sur des échelles beaucoup plus fines d'interaction avec 2, 3, avec 10 à certains moments, et au maximum, ils disent, finalement, on communique avec une vingtaine, trentaine de personnes de notre réseau. Alors, j'ai noté en titre, le social, la littératie, l'informatique sont dans un bateau. Production de la forme numérique. Donc, j'ai utilisé l'expression hier. Pourquoi ? Parce qu'il me semble qu'il y a dans ce développement d'usage la production d'une certaine forme, comme on pourrait dire la forme scolaire tout à l'heure. C'est-à-dire que le dispositif scolaire produirait des formes de socialisation spécifiques. Et bien, l'usage des outils du numérique produisent des formes de socialisation particulières, produisent des manières de faire qui sont typiques des réseaux, mais qui d'ailleurs contaminent des manières d'être hors réseau. Et en particulier, là, alors là, j'aime bien les mots en sion, hein, visiblement, il y en a trois. Là. Scripturalisation et spatialisation des relations. Ça veut dire que les réseaux sociaux, c'est la première fois que la relation amicale, elle est écrite. C'est-à-dire, machin est devenu ami avec machin. Voilà. Cette forme d'écriture de la relation sociale et que le réseau en garde la trace, hein, parce qu'évidemment vous pouviez écrire dans l'agenda d'un copain, voilà, moi avec un cœur, etc. C'est une forme d'écriture de la relation. Mais il y a une dimension performative. À partir du moment où la relation elle est écrite sur le réseau, elle est attestée. Donc on peut dire qu'on est ami avec telle personne. Et une spatialisation, pourquoi ? Parce que vous avez une restitution sous forme de page écran, tout simplement, de page web, très particulière due au dispositif, de l'organisation des relations. Et par exemple, c'est une chose que les ados disent très bien, c'est que bah d'ailleurs, quelqu'un, quand on arrête de s'occuper de lui, quand on commente plus, quand on met plus son nom dans les tags, et bah, il disparaît du fil d'actualité. Voilà. Donc dans la spatialisation, c'est très clair. Voilà. Je ne t'enlève pas de mes amis, parce que ça, c'est un geste qui est quand même assez brutal, mais j'arrête de m'intéresser à toi, et du coup, tu disparaîtras forcément de mon réseau, de mon fil d'actualité. Alors, développement d'usage aussi, qui est très, très répandu maintenant, ce sont les comptes Facebook de classe ou de groupe, hein, dans des classes de collège ou dans des classes de lycée. Il y a aussi des étudiants, hein, évidemment, qui le font, pour s'informer et pour apprendre ensemble. Et là, je vous donne deux exemples, je ne suis pas du tout sûre que ça se voit, mais je vais vous dire de quoi il s'agit. Ce sont des élèves de collège qui ont créé un compte pour leur classe, et vous avez donc sur votre gauche, c'est une demande de la prof d'anglais d'imaginer un monstre en anglais. Elle leur a demandé d'ailleurs de s'appuyer sur des logiciels de fabrication de créatures. Et il fallait qu'ils le décrivent. Et donc, c'est panique à bord, parce qu'évidemment, ils n'ont pas tous les mêmes compétences. Donc, en fait, ils se sont envoyés leur texte pour faire une espèce de correction collaborative. Donc, il y en a une qui a écrit son texte, et vous en avez une autre qui commente. Alors, je vous passe la lecture du texte en anglais. Et donc, comme il n'y a pas de réponse, au bout d'une minute, elle relance et elle dit « c'est bien ou pas ?» Enfin, surtout les derniers paragraphes. Et alors quand même, donc il y en a une qui répond, quelques minutes plus tard, Oui, c'est bien. Juste à la première phrase, alors il vaudrait mieux que tu dises ça, et puis après, au lieu de dire ça tout le temps, bah, tu ferais mieux de dire ça, et puis au fait, tu t'es trompé, violet, en anglais, ça ne se dit pas violet, c'est purple, mais sinon c'est parfait, etc. Et en fait, voilà, ils échangent sur les textes, et il y a cette forme de travail collaboratif. Et vous voyez que c'est pas, évidemment que ça peut être ça, c'est pas juste de se balancer la correction, enfin voilà, il y a une espèce de travail ensemble. Alors, il existe aussi de la sous-traitance, c'est-à-dire qu'il y en a deux, trois élèves qui font le DM de maths et qui vont mettre la correction sur la page Facebook. Du côté droit, c'est autre chose. C'est un garçon qui a photographié une fiche faite en classe. Et la prof de français a dit, vous rangez dans le classeur, la séquence elle est terminée, vous me rangez ça, vous classez ça correctement. Et là le garçon, ben, il est démuni, cette fiche elle est arrangée partie séquence ou fiche brevet. Et donc c'est intéressant parce qu'on a les vues, donc c'est vu par 8 personnes, et il y en a un qui répond, et donc il se remercie voilà, l'un l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que le dernier commentaire, c'est oh ben, il était temps de répondre quand même. Parce qu'en fait, ça a pris 3 ou 4 heures avant qu'il obtienne la réponse. Donc, mais parce que vous imaginez, en fait, l'élève, il est là, il est en train de le faire. Il a son classeur, il a ses fiches, et puis les autres ne donnent pas de réponse, quoi. Et donc, si vous les voyez faire, ou si vous avez vos enfants qui font ça, ils sont dans une espèce de fébrilité, c'est parce qu'ils ne peuvent pas avancer dans l'exercice tant qu'ils n'ont pas eu la réponse. Donc, voilà, ça, ce sont des usages. Alors, juste pour dire, c'est que là, c'est de la production d'espace scolaire. Ils sont sur un environnement qui est le même que celui que quand ils communiquent sur des usages relationnels, privés, etc. Mais en fait, ils fabriquent de l'espace scolaire. Ils sont en train de prolonger la demande scolaire. Alors, maintenant, un focus sur Twitter. Twitter et les usages adolescents, c'est déjà moins étudié pour l'instant. Je vous en ai donner à titre d'exemple deux, parce que je trouve ça assez symptomatique. Mince, je me suis encore perdue sur Twitter. Et là, c'était l'idée qu'effectivement, de compte en compte, c'est un peu comme d'autres types de navigation, c'est qu'il y a passé beaucoup de temps. Et puis, on a ce type de propos. Ils ont parlé de Dieudonné aux infos, genre ils l'ontège d'un théâtre, et après, on vient nous parler de liberté d'expression. Donc ça, c'est aussi le genre de choses dont on peut penser que ça relève d'une communication beaucoup plus immédiate. Alors, c'est vrai que la question qu'on peut se poser avec Twitter et l'usage de Twitter par les ados, c'est qu'est-ce qu'ils sont en train d'établir comme type de communication? Déjà, à quelle échelle du réseau ils pensent communiquer? Twitter, c'est pas comme Facebook, on choisit pas ses amis. On est suivi par des gens et on suit des gens. Ce qui fait qu'on est sur une échelle de réseau qui, a priori, est nettement plus importante. Pourtant, les jeunes vont tweeter des choses extrêmement personnelles, immédiates, en temps réel. Et là, on peut se poser la question de quelle perception ils ont de l'échelle du réseau à laquelle ils agissent. Alors, je vous montre ces exemples-là parce que je me demande, est-ce que ces usages-là, on les travaille à l'école ? Ma femme a fait un truc hier avec sa bouche que tous les hommes adorent. Elle l'a fermée. C'est un collégien qui a publié ça. Là, une publication avec une photo de femme et puis une série de femmes avec un commentaire que j'ai pas copié-collé mais qui est lié à la présence de l'homme seul torse nu au milieu. Là, je vous laisse imaginer. Et puis, ce type de propos, là, c'est le même compte. Si demain, il y a de l'algorithmie dans mon contrôle de maths, je me tape une sale note, c'est sûr, et ça me stresse, putain. Des corrections orthographiques à d'autres tweets, les gens qui croivent, et puis on met entre guillemets. Demain, grand événement, je mets une robe. Twitter, c'est fait pour rire, discuter musique, cinéma, actualité, mais sûrement pas pour tweeter fauve. Tweeter du fauve. Alors, du fauve, ça renvoie à un collectif hein, de gens qui font de la création artistique, on va dire, et qui ont par exemple un compte Twitter consacré à ça, à des citations que l'on peut faire circuler, qu'on peut remanier, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit là? C'est qu'on a des usages de Twitter qui sont vraiment sur une réaction immédiate de quelque chose, c'est de l'ordre de la spontanéité, et qui, curieusement, de manière assez paradoxale, semble plus immédiate que sur Facebook. Alors, à partir de ça, je vais essayer de tirer quelques fils pour des questions didactiques. Je dis à partir d'une approche géographique. Pourquoi ? Parce que je garde bien cette idée, et que c'est pour ça, à mon avis, que ce que je vous ai dit, c'est bien parce que j'ai cette perspective d'espace. Le premier aspect que je vais regarder avec vous, c'est du côté littératie et des usages sociaux communicationnels. Et le deuxième, c'est la question de l'espace de médiation pédagogique que l'on met en place pour apprendre, pour mener des apprentissages en lien avec la culture des ados. Alors, une première piste pour réfléchir sur cette question de la littératie et de la culture adolescente, c'est quelle grammaire de la communication se construit sur les réseaux et est-ce qu'on en fait un objet d'apprentissage? Est-ce qu'on leur permet de comprendre quelle grammaire ils sont en train de s'approprier? Alors, grammaire au sens d'un ensemble de règles, de normes que l'on utilise pour pouvoir communiquer et être compris. Si on regarde, là vous avez une bannière de compte Facebook et un compte Twitter. Je pense que vous voyez l'homologie, la manière dont ça se ressemble. Et vous avez des choses qui sont extrêmement normées et que les jeunes s'approprient. Là, par exemple, c'est un élève de 6e qui a mis une capture d'écran de jeux vidéo, forcément guerrier, parce qu'il y a une image de garçon aussi qu'il faut assumer. Hein, donc, et puis, il a ce fameux casque. Je ne sais pas si vous les avez vus, ces photos de profil avec les casques, qui montrent bien qu'on est un individu dans le numérique, là. On joue, on fait des tas de choses. Et ça, c'est une forme de grammaire, c'est-à-dire que le garçon, il a vu que sur les autres comptes, c'était comme ça que ça se faisait. Progressivement, il a modifié sa bannière et sa photo de profil. De la même manière, vous avez, voilà, selon l'individu que l'on a envie de donner à voir, on va choisir un certain type de code. Est-ce que ça se travaille à l'école ? Comme je le disais tout à l'heure, donc je vais être assez rapide, c'est la question de l'invisibilité des médiations. Ces environnements techniques, ces dispositifs, est-ce qu'ils sont travaillés? Cette notion d'architecte, c'est-à-dire, pour le faire vite, ce dispositif qui est matérialisé ici, est-ce que je permets de comprendre aux élèves comment ça contraint ou ça facilite leur activité de communication, d'écriture, d'échange, de circulation d'infos, etc. Et est-ce que je leur permets de comprendre qu'en raison de ça, ils sont en train de construire un territoire social, c'est-à-dire peut-être d'être dans une dynamique sociale avec les autres, ou au contraire, est-ce qu'ils sont en train de figer les choses et de s'exclure d'une certaine forme de pratique sociale plus ouverte? Ça se voit, hein, même si vous faites l'analogie avec des choses qui sont hors réseau. Vous voyez très bien autour de vous des adolescents qui, par exemple, ont des manières de faire avec les autres qui les excluent. Voilà. Prendre la parole d'une certaine manière, toujours rembarré, toujours. Enfin, voilà. Et on se dit, celui-là, il ne sait pas se faire des copains. Bon. Et bien, en fait, c'est la même chose sur les réseaux. Il y a des manières d'adopter une certaine grammaire de la communication qui fait qu'on va pouvoir interagir, on va pouvoir être dans de la translittératie, par exemple, et à d'autres moments, on ne le peut pas. Là, je vous donne un exemple de ce compte Twitter que j'avais utilisé à une autre occasion. Est-ce qu'on travaille chacun de ces éléments-là quand on travaille Twitter dans des séances avec les élèves? Est-ce qu'on, à savoir effectivement les outils de communication dont on vient de parler, mais la question de la recommandation, la question de la popularité, la question du partage, la question de ces éléments du quantified self, hein, c'est-à-dire combien j'ai de favoris, combien j'ai d'amis, combien j'ai de tweets et réponses, etc. Comment est-ce que là, on a des choses qui s'insèrent, en fait, on a des espaces qui sont imbriqués, avec un tweet et avec d'autres indicateurs. Et tous ces éléments-là, est-ce qu'on les travaille? Elle est là, la grammaire. Ouais, je ne pouvais pas passer à côté, je suis désolée. De ce qu'on fait avec Twitter et l'orthographe. Alors, à mon avis, c'est un outil très intéressant pour travailler l'orthographe. Sauf que, enfin, voilà, la question que je veux poser, c'est qu'est-ce qu'on travaille vraiment? Il faut être clair, quand on utilise Twitter pour faire de la tweet class, enfin de la tweet, la tweetée, on ne travaille pas Twitter en tant que réseau social. On ne travaille pas la recommandation, on ne travaille pas les échelles de réseau, on ne travaille pas l'évaluation de l'autorité, on ne travaille pas le partage, etc. On est sur une vision du réseau social qui est extrêmement réduite. Alors, quand on regarde la manière dont les gens qui ont construit le dispositif de la tweetée, ils sont très clairs, hein, ils le disent bien, on utilise Twitter comme un outil pour faire de l'orthographe. Mais en fait, le plus intéressant, ce n'est pas ce qui se passe sur Twitter. Le plus intéressant, c'est ce qui se passe ailleurs. Et qu'en fait, c'est le principe de la dictée négociée, qui est quand même une activité scolaire très ancienne, très travaillée en didactique du français, et qui n'a pas grand-chose à voir, enfin, en tout cas, voilà, Twitter n'a pas du tout révolutionné l'orthographe. Alors, pour terminer sur cet aspect-là, il faut se dire aussi quand on regarde j'ai comparé les comptes Twitter d'adolescents et des comptes Twitter de classe, c'est pas le même fonctionnement. On n'est pas du tout sur une prise en compte de pratiques réelles de l'usage de Twitter. Deuxième piste que je voulais voir avec vous, c'est la question de l'élaboration d'un espace de médiation pédagogique pour permettre des apprentissages. Alors voilà ma question. Et je ne prends pas les choses de la même manière que ça a été pris. Même si je suis tout à fait en accord avec ce qui a été présenté avec Pascal ce matin, mais je ne vais pas le faire de la même façon. La question que je me pose, c'est quel modèle didactique on peut utiliser, penser, pour prendre en compte la complexité de ces dispositifs auxquels les élèves sont confrontés, et c'est bien des dispositifs littéraciques, et pour être, alors, dans une éthique de la situation d'enseignement-apprentissage. C'est beau, en tout cas. L'idée, c'est que c'est l'expression que j'ai utilisée hier, c'était l'idée que comment est-ce que je fais pour permettre aux élèves d'être vraiment des individus sujets et de se construire comme des auteurs dans cet usage-là. Alors, si vous voyez, c'est un modèle de représentation de l'activité enseignante que je travaille avec un collègue d'EPS. Qu'on peut utiliser pour matérialiser la manière dont un enseignant met en place ces situations d'enseignement-apprentissage. Alors, je n'ai pas de stylo laser, mais vous voyez quand je... Oui, voilà. L'idée, c'est que pour permettre d'exploiter la culture des adolescents, il faut que l'enseignant soit dans une représentation de son activité extrêmement équilibrée et négociée. C'est-à-dire qu'il faut... Il y a deux leviers, en quelque sorte. Enfin, ce n'est pas des leviers, parce qu'ils sont là, les leviers, on va le dire autrement. Deux éléments assez contradictoires, deux logiques contradictoires, mais qui sont nécessaires de tenir ensemble. L'obstination didactique, c'est-à-dire, je veux que tu apprennes quelque chose. Voilà. On veut que le savoir aille à l'élève. C'est l'obstination didactique. Et parallèlement, c'est la tolérance pédagogique que vous avez ici. C'est-à-dire, mais je suis dans un établissement particulier, j'ai affaire à des élèves en particulier avec des besoins, avec des compétences, avec des lacunes, etc. Donc, forcément, les deux sont confrontés. Et l'enseignant est tout le temps dans un travail d'ajustement, de négociation, pour garder un équilibre entre les deux. Si l'enseignant ne le fait pas, s'il n'est que dans l'obstination didactique, eh ben les élèves, vous en avez un paquet qui restera sur le bord de la route. Et si vous n'êtes que dans de la tolérance pédagogique, ben c'est sympa, ils vont bien s'amuser, mais il ne se passera pas grand-chose en termes d'apprentissage. Et la manière dont cet enseignant va, à partir de là, utiliser un levier pédagogique et un levier didactique selon les situations, eh bien, Je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, c'est la zone proximale de développement. Voilà. De manière à pouvoir proposer un savoir qui soit accessible par l'élève. Alors, cette modélisation-là, elle est intéressante, mais évidemment, le problème des modélisations, c'est qu'on a toujours envie d'ajouter des choses. Et moi, pour pouvoir s'appuyer sur cette question de la prise en compte des usages des ados, j'ajouterai plusieurs termes. La première, c'est la question de la médiatisation. Donc, il y a quelqu'un ici qui travaille sur le CDI médiatisé. Donc, Angèle, tu pourras expliquer ce que tu entends par là, mais c'est exactement cette idée-là. C'est qu'effectivement, quand on met en place une situation d'enseignement-apprentissage, on va réfléchir à quel espace, enfin, qu'est-ce qu'on va proposer à l'élève comme objet, comme lieu pour pouvoir travailler ça. Alors, je vais l'avancer autrement. En passant par la notion, alors là, on y va, d'instrumentation. Alors, c'est quelque chose qui a été peut-être à la mode à un moment donné, qu'on a pas mal entendu, les travaux de Rabardel sur l'interaction homme-machine, etc. Mais qu'on a, peut-être que parfois on oublie, quand on apprend, on apprend en entrant en relation avec des objets. Alors, j'ai volontairement mis des objets un peu hétéroclites, et avec des artefacts. L'artefact, pour dire que c'est un objet produit par la main de l'homme. On entre en relation avec un livre et on accède aux savoirs qui sont médiatisés par ce livre. On peut entrer en interaction avec un document, et là c'est quelque chose que vous connaissez très bien, qui est la médiation documentaire. Mais ça peut être avec un ballon, ça peut être avec une poupée, ça peut être avec une carte, ça peut être avec des étagères d'une bibliothèque, etc. Mais pour apprendre, on se construit en interagissant avec des objets qui vont médier le savoir. Et on met en œuvre deux processus qui sont absolument nécessaires. Le premier, c'est l'instrumentalisation. C'est le moment où on apprend à utiliser l'objet qui nous est proposé. Donc par exemple, taper dans un ballon, les enfants apprennent à taper dans un ballon. Un livre, on apprend à manipuler un livre, à le tourner dans le bon sens, etc., déchiffrer, enfin il y a tout un tas d'apprentissages qui sont de l'instrumentalisation et qui sont des apprentissages de procédure. On découvre techniquement, c'est obligatoire, c'est nécessaire. Et puis ensuite, pour qu'on ait la totalité de l'apprentissage, il faut aller jusqu'à l'instrumentation, c'est-à-dire qu'on va incorporer cette utilisation, cet objet-là, dans notre propre fonctionnement personnel. Pour le dire simplement, en fait, on construit des chaînes. C'est cette phase-là où on va conceptualiser notre activité. On va être capable d'aller jusqu'à... l'incorporation, tout à l'heure l'expression a été utilisée, on va incorporer des usages. Il faut les deux. Le problème, c'est que bien souvent, quand on fait une formation en s'appuyant sur la culture numérique ou alors, ou les usages du numérique, c'est un peu piégé que cette expression de culture numérique, on s'arrête à l'instrumentalisation. On ne va pas jusqu'à l'instrumentation. Alors si je reprends, pour être clair, en général, tous les enseignants sont conscients qu'il faut transmettre du savoir. Donc l'obstination didactique, si vous êtes bien motivé, tout le monde l'a. Selon la fatigue, la tolérance pédagogique, elle va être plus ou moins... Mais ça, c'est quelque chose qui est assez clair pour tout le monde. La dimension médiatisation de l'enseignement, c'est-à-dire qu'est-ce que je donne, comment j'organise un dispositif, comment est-ce que je mets en place des éléments d'une situation d'enseignement pour pouvoir enseigner, ça, c'est quelque chose qui est parfois assez bien partagé. En revanche, c'est la mise en place du processus d'apprentissage qui est beaucoup plus problématique. Donc la question de l'instrumentalisation et de l'instrumentation. Alors, je vous ai noté les deux définitions de médiatisation et médiation, comme ça va être plus simple. La médiatisation, c'est effectivement comment est-ce qu'on va organiser ce qui va médiatiser le savoir. Donc par exemple, je vous donne un exemple très concrets liés à votre métier. Est-ce que je vais donner une fiche avec la notion définie, un bel encadré, ça peut être tout à fait pertinent, ou bien est-ce que ça va être un ensemble de documents à partir desquels on construira quelque chose, mais ça c'est l'ensemble qui va me permettre de médiatiser le savoir. C'est fait par un acteur qui est considéré comme étant compétent pour le faire. Il faut qu'il y ait un médiateur. Donc d'ailleurs, c'est un peu compliqué de dire que les enseignants deviennent, ceux qui médiatisent le savoir, ils le sont forcément. Et puis, par cette médiatisation, on va mettre en scène ce processus d'instrumentalisation et pour pouvoir aller jusqu'à l'instrumentation. Et la médiation, c'est l'ensemble des moyens que vous allez utiliser pour que tous vos artefacts, les élèves puissent se les approprier. Alors pourquoi est-ce que c'est essentiel ? Après, je reviendrai avec des exemples, vous pourrez proposer des exemples. Pourquoi est-ce que c'est absolument essentiel de se poser ces questions-là ? On a de véritables processus d'inégalité scolaire qui se construisent. Et en fait, alors que la prise en compte de la culture des jeunes pouvait sembler une chance pour raccrocher certains élèves, en disant, vos pratiques, on va utiliser vos comptes Facebook, vous allez pouvoir utiliser Twitter, etc. en classe, vous pouvez faire un compte Facebook pour faire tel projet, etc. En fait, si on ne réfléchit pas vraiment en professionnel de l'enseignement-apprentissage, on fabrique de l'inégalité scolaire. Alors pourquoi ? Parce que dans ce processus d'appropriation, les jeunes construisent un rapport à la chose scolaire. Et ils le font dans la continuité de leur pratique. Si on n'explicite pas où sont les savoirs, si on n'explicite pas quels sont les apprentissages qui sont en train de se mettre en place, si on en reste à l'instrumentalisation, les élèves construisent un rapport qui est complètement lié du rapport à la technique ou à l'école, etc., qu'ils ont construit à l'extérieur. C'est-à-dire, en fait, on ne change rien. On renforce ce qu'ils savent déjà faire et on ne transforme pas pour en faire autre chose. C'est-à-dire que la question de construction de savoir, elle n'a pas lieu. Alors, si vous le souhaitez, Stéphane Bonnery est un chercheur qui travaille beaucoup sur ces questions-là, qui a publié déjà des ouvrages avec une équipe sur l'échec scolaire et sur la production d'inégalités scolaires à partir des supports pédagogiques, c'est-à-dire la question des artefacts et de la médiatisation. Et il montre bien, par exemple, que l'usage des fiches, les fiches élèves sont des outils de fabrication d'inégalités scolaires. Ça mérite d'y réfléchir. Parce qu'en fait, ce sont des outils qui médiatisent le savoir d'une certaine manière sans réellement permettre des apprentissages aboutis. C'est-à-dire que bien souvent, les fiches élèves restent à l'étape d'instrumentalisation. Alors, pour donner un exemple précis, si je reprends avec Twitter et Facebook, apprendre à des élèves à paramétrer leur compte Facebook, c'est de l'instrumentalisation. Donc ça veut dire qu'ils vont, ressortir de la séance ou en se disant « cause toujours, tu m'intéresses » parce qu'ils ont déjà un rapport à l'outil fort ou au réseau fort et que vous n'êtes pas jugé légitime sur cet outil-là. Ou bien ils vont faire ce que vous dites, mais ça sera très provisoire, on ne sera pas allé jusqu'à l'instrumentation, donc il n'y a pas de construction de chaîne, donc ils ne modifient rien en profondeur, il n'y a pas d'apprentissage. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir chaque fois que vous vous dites, mais c'est bizarre, ils ne transfèrent pas, on a travaillé ça je ne sais pas combien de fois, et pourtant ils continuent à... Bah oui, parce qu'on n'est toujours que sur de l'instrumentalisation. Quand on est sur Twitter, les faire travailler avec des tweetés, etc., tout ça, c'est très intéressant. Faire du travail littéraire même, ou des projets en histoire-géographie, voilà. Ça, il n'y a absolument pas question de dire que ce sont des travaux qui ne sont pas opportuns. Ce qu'il y a, c'est que ça ne leur permet pas de construire Twitter comme un instrument. ils sont dans une utilisation de Twitter, c'est comme quand on dit c'est un prétexte pour autre chose. Mais on ne peut pas dire qu'on a fait une formation à l'usage des réseaux sociaux. À partir du moment où on n'a pas travaillé la popularité, la recommandation, les chefs de réseau, etc. Alors, un point de vigilance, et puis là j'arrive à ma conclusion, c'est le boom de ce discours sur la créativité et sur le pouvoir d'agir, l'empowerment. Alors, je n'ai pas du tout de scrupule à le dire, parce qu'il y a des fois, je le dis moi-même, qu'il faut développer le pouvoir d'agir des élèves et la créativité. La question, c'est jusqu'à quel point ce discours sur la créativité n'est pas, en fait, une bonne conscience pour ne pas regarder les inégalités. Parce qu'en fait, ceux qui sont capables d'être créatifs, c'est ceux qui sont déjà en phase d'instrumentation. C'est-à-dire qu'ils savent, non seulement utiliser l'outil, mais ils ont incorporé suffisamment l'usage pour pouvoir avoir un usage créatif. Alors même s'ils ne le maîtrisent pas entièrement, ils le maîtrisent suffisamment pour être du côté de la créativité. Et puis cette question du pouvoir d'agir. Est-ce que de faire quelque chose signifie qu'on a appris ? C'est une vieille question, hein. C'est vraiment une vieille question. Sauf qu'avec cette question de pouvoir d'agir, d'engagement, de contribution, de trouver sa place dans la société, etc., est-ce que de publier des billets sur un blog, c'est du pouvoir d'agir ? Est-ce que c'est du vrai engagement ? Et est-ce que c'est ça, apprendre ? Alors, pour terminer, je vais revenir sur la question de la forme scolaire. Quand on veut s'appuyer, prendre en compte, former les élèves à des usages plus élaborés du numérique, en fait, on cherche à inscrire dans la forme scolaire ce qui n'en relève pas. Donc, c'est bien élaborer un espace médiatisé où s'élabore la médiation enseignante, c'est-à-dire on ne peut pas faire sans les enseignants. On ne peut pas faire sans cette expertise de l'obstination didactique, de la tolérance pédagogique, de la visée proximale de développement. Voilà. On ne peut pas faire sans ça. Et il faut transformer l'objet qui est hors scolaire en objet scolaire. Et parfois produire des objets qui n'existent pas hors contexte scolaire. C'est bien la question de l'orthographe. Ou de l'exercice, franchement, l'exercice d'orthographe, est-ce que ça existe en dehors d'une préoccupation scolaire ? J'espère pas, en fait. Hein, parce que... Voilà, je ne sais pas si on vous offre des bleds à Noël. Non, pourquoi pas ? Oui, la dictée de pivot. Mais pour moi, c'est plus une contamination de la forme scolaire à l'ensemble de la société, mais c'est quand même un objet qui est créé par... le contexte scolaire, la notion d'exercice en particulier. Et il y a des gestes professionnels très spécifiques, c'est-à-dire que personne ne peut faire à la place des enseignants ça. La médiation langagière, par exemple. Comment est-ce que par le langage, un enseignant contribue à faire construire du savoir aux élèves ? Comment est-ce que par la médiation technique, selon le type de support pédagogique qu'il va proposer, il va permettre de construire, enfin à des élèves de s'approprier du savoir. Comment par son séquencement temporel. Par exemple, moi je suis parfois étonnée quand je regarde des fiches en ligne, c'est l'organisation temporelle. Comme ça a été dit ce matin, on a parfois une mise en situation qui est très, très bien pensée, où on se dit ça y est, les élèves ils vont être dans l'activité, et puis après... On conduira les élèves à réfléchir, on échangera pour leur faire comprendre que, on les initiera, on va les sensibiliser à, et au bout d'une heure, magiquement, ils ont compris. Voilà. Non, là, c'est, on rend invisible tout ce qui est médiation langagière, médiation technique, etc. Et évidemment, une question d'exigence. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie.
Dire que moi, ce que j'entends depuis hier et depuis ce matin particulièrement, c'est formidable qu'on le tienne dans le cadre du congrès de la FACBEL, mais que là, par rapport à les problèmes proposés ce matin, il faudrait véritablement que ce soit dit devant les publics, qu'ils soient les publics d'enseignants disciplines, de chefs d'établissement, d'IPR, de décideurs. Parce que je pense qu'il y a énormément de collègues, de gens de l'institution qui ne sont pas de mauvaise volonté, qui essayent de prendre en compte un certain nombre de choses, mais qui n'ont pas du tout repéré l'épaisseur des problématiques qui sont derrière, effectivement, des expressions ou des mots ou des projets de réforme. Et je pense que ça serait important de pouvoir diffuser effectivement ce genre de choses ou ce genre d'intervention. Je pense même par exemple, parce que ce sont pourtant des gens qui sont en ce moment dans l'aide pédagogique, dans le soutien au projet de réforme, je pense en particulier au CAP, qui est le collectif des associations partenaires de l'école, qui réunit aussi bien les CMEA, les CRAP, la ROEVEN, l'éducation de l'avenir, la Ligue de l'enseignement, etc., qui sont des gens qui ont beaucoup acquis aux méthodes pédagogiques actives, à l'éducation nouvelle, à des finalités qui ressemblent aux nôtres, et qui, malgré cela, pour un certain nombre d'entre eux, même très connus, n'arrivent pas, je crois, à intégrer ces dimensions-là. Et avec lesquels on a du mal, je m'en suis encore rendu compte, moi je suis à l'éducation de l'avenir en discutant avec des collègues qui sont chefs d'établissement ou inspecteurs, etc., et qui n'arrivent pas à percevoir tout ce qu'il y a derrière. Et je crois que là, il y a un boulot de diffusion et de vulgarisation, et un boulot pour la FADBEN de contact avec toutes ces associations, parce que c'est pas toujours facile, même dans les groupes de travail du CSP, avec des gens pourtant des CRAP, etc., d'arriver à sortir de représentations qui restent encore très transversales du rôle des profs d'offre.